Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Violent combat entre l'armée loyaliste et les présumés rebelles du M23 autour des collines stratégiques de Runyonyi et Tianzhou dans le Rutshuru depuis 3 heures de ce matin. Une attaque amorcée par les rebelles du M23 sur les positions FRDC. 4 morts, 4 blessés et plus de 200 maisons parties en fumée. Bilan encore provisoire de l'incendie survenu à Isezia dans les territoires de Shabunda au sud Kivu. Le mauvais stockage du carburant dans une maison en serait la cause. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est le DG de la société textile de Kisangani Soteski, le professeur Glombert Loco, nous révèle que son entité est en passe de fermer ses portes si on y prend garde. Voilà tout pour le temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord Kivu, des violents combats entre l'armée loyaliste et les rebelles présumés du M23 sont signalés depuis 3 heures du matin tout autour des collines stratégiques de Runyonyi et Tianzhou en groupement Djomba, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru ce lundi. Selon les sources dans la région, les rebelles du M23 auraient attaqué sur tous les fronts les positions des FRDC dans la zone. Pour l'instant, les collines Tianzhou et Runyonyi seraient passées sous contrôle des rebelles du M23 selon les sources coutumières de Djomba. Le point avec Gabriel Wamignan.
C'est aux environs des 3 heures du matin que les rebelles supposés du M23 auraient attaqué simultanément toutes les positions tenues jusque-là par les soldats loyalistes dans les collines stratégiques de Runyonyi et Tianzhou. Après d'après combats entre l'armée et les rebelles, les deux collines sont passées sous contrôle des combattants du M23, affirme le chef de groupement de Djomba, Kachuki Jackson, que nous avons joint ce matin.
La situation sécuritaire vraiment est très grave.
Est-ce que vous confirmez la prise de ces deux collines stratégiques par les M23?
Oui, oui, je le confirme parce que la population a quitté depuis le matin à 6 heures.
Pour l'instant, aucun bilan de ces affrontements n'est disponible, mais d'intenses combats se poursuivent tout autour de ces collines selon les mêmes sources. Le chef de groupement de Djomba parle d'un déplacement massif de la population. Tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 n'ont pas abouti. Mais dans sa mise au point d'hier dimanche à Radio Okapi, le lieutenant-colonel Njike Kaiko a affirmé que toutes les positions tenues par les FRDC sont consolidées et les FRDC y resteront le plus longtemps possible. Fin de citation. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis on revient sur la mission de 72 heures à Beni du chef d'état-major général des FRDC qui s'est achevée dimanche. Le général d'armée Mbala Moussese a rencontré plusieurs personnalités, tant civiles que militaires. Parmi les personnalités civiles reçues, le président de la coordination urbaine de la société civile de Beni. D'après ce dernier, il est allé présenter au chef d'état-major les doléances de la population et voir avec lui dans quelle mesure les soldats FRDC engagés dans les opérations de traque des ADF puissent être bien traité. Maître Pépin Paluku Kavuta explique au micro d'André Kitenge.
C'était d'abord de lui donner notre souci de bien prendre les éléments de l'ordre, les troupes, les FRDC qui sont sur le terrain, les prendre dans toute considération. Parce que nous avons constaté que aux côtés de nos militaires, il y a effectivement les militaires ougandais qui sont bien pris à charge. Et au contraire, les nôtres ne sont pas bien pris à charge. D'abord sur les points d'habillement, mais aussi, on dit aussi la prise à charge alimentaire, mais aussi leur solde. Mais aussi autre chose, c'était, n'est-ce pas, la question de voir pourquoi, là où il y a les deux armées des deux pays, les massacres continuent dans les territoires. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on n'a pas d'armement? Est-ce qu'on n'est pas dit de frapper fort? C'est tout ça qui nous écœure, nous, comme société civile. Mais autre chose, c'est la façon de communiquer de certaines autorités militaires qui, n'est-ce pas, ils communiquent peut-être avec arrogance à la population. Il nous a répondu qu'il est en train de suivre et que tout va changer.
Notez que durant son séjour à Beni, le chef d'état-major a eu une réunion de haut niveau avec les hauts officiers FRDC engagés dans les opérations Sokola 1 et les partenaires militaires des FRDC, notamment la FAIB et l'UPDF. Et puis en plus bref, en Ituri, 3 personnes membres d'une même famille ont été tuées la nuit de dimanche à ce lundi par des miliciens de la CODECO au village de Deyou, à environ 110 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces assaillants ont également mis le feu sur 18 maisons dont tous les effets sont calcinés. Cette incursion de la milice CODECO a entraîné le déplacement de toute la population vers les localités voisines, Bello, Dikbakba et Bouba. Signalons que c'est pour la troisième fois que ces inciviques commettent des exactions dans cette entité qui est entourée des villages sous contrôle du groupe armé CODECO. 4 morts, 4 blessés, plus de 200 maisons parties en fumée. C'est le bilan encore provisoire de l'incendie survenu à Isezia dans le territoire de Chabunda. Nous sommes au sud Kivu. L'incendie s'est déclaré la nuit d'hier dimanche à ce lundi aux environs de 1h du matin. L'administrateur du territoire indique que l'origine de cet incendie, c'est le mauvais stockage du carburant dans une maison Jean Kassami.
Les sources de la société civile parlent de 5 morts et de 5 blessés, tandis que l'administrateur de territoire lui fait mention de 4 morts, 4 blessés et de 200 maisons parties en fumée. Kachombana Bin Saleh signale que le feu continue à s'étendre dans un milieu où il n'existe aucun véhicule anti-incendie. L'administrateur appelle les humanitaires au secours et il demande aux administrés de ne jamais conserver les produits inflammables à l'intérieur de leur maison d'habitation.
Les dispositions, nous sommes dans une situation telle que nous n'avons pas des anti-incendies. La MONUSCO pouvait intervenir, mais nous sommes très loin. À plus de 100 km, la MONUSCO est au chef-lieu du territoire. Donc il faut que peut-être Bukavu intervienne pour sauver les vies humaines et également les maisons qui continuent à être incendiées.
Isezia est une localité perdue dans la vaste forêt du territoire de Chabunda, à 100 km du chef-lieu dans la chefferie Bakissi, en groupement de Bamugouba Sud. C'est un centre qui compte au moins 1000 habitants, selon l'administrateur. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au Kassa Oriental, la source de captage d'eau de Lukelenge exploitée par la régie des eaux pour approvisionner en eau potable. La ville de Mbujimayi est menacée par les creuseurs artisanaux qui utilisent les dragues motorisées pour l'exploitation du diamant. Cette source produit plus de 14 000 mètres d'eau par heure. D'après le directeur provincial de la régie des eaux, Kassa Oriental, la destruction de cette source peut priver de l'eau potable à une grande partie de la ville de Mbujimayi. Le directeur provincial de la régie des eaux demande aux autorités de s'investir pour sécuriser les sites de captage d'eau de Lukelenge. Didier Mboudilelo, directeur provincial de la régie des eaux, s'exprime au micro des journalistes de la radio Fraternité Buena Muntu du diocèse de Mbujimayi.
Notre site de captage à Lukelenge, là où nous tirons de l'eau, là où la source généreuse peut nous donner jusqu'à 4 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 14 400 mètres cubes par heure, au-delà des besoins de la ville. Maintenant, là, je vous dis qu'il y a un danger là-bas. Il y a des exploitants clandestins, les exploitants miniers sont en train de chercher le diamant juste là où il y a notre digue. La terre est étendue, mais on ne comprend pas comment ils ont choisi seulement notre site pour aller chercher le diamant. Maintenant, notre digue est en danger. Avec leurs dragues motorisées, ils font des galeries qui, si ces galeries atteignent le bassin captant, eh bien toute l'eau collectée là-bas pour être pompée va se retrouver dans la Lubilanchi. Le diamant, ils l'auront, ils le mettront en poche pour eux, mais l'eau, c'est pour toute la ville. Plus de 3 500 000 habitants. Nous avons déjà saisi beaucoup d'autorités, il y a même déjà la police sur le site. La dernière fois, notre avocat conseil est descendu là-bas entre 1h et 4h du matin et a surpris ces gens en train de travailler. Vraiment, c'est un problème. Nous ne sommes pas outillés pour sécuriser ces sites. On préserve l'existant. On préserve la ressource parce que si cette ressource disparaît, tout ce que nous avons investi là-bas sera fini.
Christophe Mbosso appelle les députés provinciaux du Grand Bandundu à élire des gouverneurs qui remplissent les critères de compétences pour le développement de l'espace Grand Bandundu à partir de la base. Au cours d'une rencontre hier dimanche ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a invité toute la notabilité du Grand Bandundu à s'impliquer pour que le programme de développement de 145 territoires profite à chaque territoire de l'espace Grand Bandundu. Se référant aux divergences politiques qui ont hier constitué un obstacle et ont paralysé les efforts de développement entrepris au Bandundu, Christophe Mbosso a insisté sur la cohésion, le pardon et la réconciliation. On l'écoute au micro de Michel Kifindangoy.
Si les fils et les filles des grands Bandundu, sème, les grands Bandundu ira de l'avant. Le projet de 145 territoires, c'est une grande opportunité parce que c'est une première initiative du développement à la base qui commence dans notre pays depuis plus de 60 ans d'indépendance. Maintenant, on va de la base. Donc, Bandundu a sa part. Chaque territoire du Grand Bandundu a des projets qui vont être développés. Et nous, tous les élus, tous les opérateurs politiques du Grand Bandundu, nous devons nous impliquer pour que ces projets deviennent une réalité, que ça soit un succès. Nous devons présenter des candidats qui ont des profils, qui ont des qualités morales et des qualités intellectuelles. Alors si nous faussons, nous ne respectons pas les critères, en ce moment-là, nous biaisons le développement à la base.
On prépare à cette rencontre les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les ministres nationaux et provinciaux, les gouverneurs, administrateurs, chefs des partis politiques ainsi que les journalistes issus de l'espace Grand Bandundu. En République démocratique du Congo, la Sotheby's reste actuellement l'unique usine de fabrication des tissus wax imprimés. Cependant, cette production s'est faite sur fond d'énormes difficultés, non seulement matérielles et financières, mais aussi du point de vue du marché. Comment s'arrange-t-elle pour obtenir ces matières premières? Ces produits sont-ils consommés localement? Et quel est le circuit de son marché? Tentative de réponse dans ce reportage de Jacques Moukokolé.
Depuis tout le temps, les produits de la Sotheby's, ou mieux ces pagnoix imprimés, sont prisés par les consommateurs. Ils sont fabriqués sur base du coton, sa matière première. Cette dernière provient notamment de Dingila dans le territoire du Bas-Ouélé et de Mahagi en Ituri. Au moins 35 000 paysans dépendent de la Sotheby's et contribuent à son maintien. Cependant, l'évacuation de cette matière pose toujours problème. Vers la fin de l'année dernière, environ 40 tonnes de coton en provenance de Dingila ont atteint qui sont gagnés par vélo après 7 mois à cause du mauvais état des routes. Actuellement, au moins 20 autres tonnes sont en attente d'évacuation du côté des Mahagi. Ce coton est le meilleur, dit-on, dans les milieux de la Sotheby's qui vante sa gamme variée des produits. Outre les wax, on peut citer nommément les langes pour bébés, les draps de lit et les toiles matelas. Les moustiquaires peuvent également être produites, affirme un cadre de cette usine. Par rapport à la production des wax, elle s'est faite sur base des commandes. Ces dernières viennent aussi bien de l'intérieur du pays que de l'extérieur, par exemple du Mozambique, du Congo-Brazzaville ou encore de l'Angola, surtout en période électorale. Le surplus de ces commandes sont vendus sur le marché local, mais ce marché connaît la concurrence déloyale de la part des Asiatiques. Leurs tissus sont vendus à moins cher par rapport à ceux de la Sotheby's, dont une pièce revient en moyenne à 20 dollars américains. Envie de protéger le marché local, la Sotheby's sollicite toujours l'appui du gouvernement congolais. Jacques Moukokolé, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps dans la province du Maniema, les veuves et orphelins de policiers de cette province haussent le ton pour réclamer auprès de Equity Bank leur salaire de 2 mois, soit février et mars. Selon leurs représentants, après que l'agence Sofico s'est déclarée incapable de payer ses veuves et orphelins, ces derniers ont été transférés chez Equity Bank. Dès lors, ils sont soumis à plusieurs contrôles qui n'aboutissent pas à leur paiement. Ces derniers se disent limités et demandent l'implication des autorités pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Monsieur Pierre Moubaké, orphelin et représentant des veuves et orphelins, l'a dit à Florence Kizalunga.
Nous sommes venus au studio de la radio dénonçant le comportement qu'affichent les agents de l'Equity Bank de refuser de nous payer notre salaire de 2 mois de nos faits père et mari que nous recevions chaque mois. Nous plaidons l'implication des autorités civiles et paramilitaires car parmi nous il y a des locataires et ceux qui scolarisent les enfants et nos conditions de vie deviennent difficiles. Il s'agit du mois de février ainsi que le mois de mars. Présentement, la banque vient nous payer, mais nous regrettons la banque vient avec deux choses à la fois, le contrôle ainsi que la paix. Nous ne savons plus à quel sens vouer. Nous voulons le contrôle, mais on nous demande beaucoup de documents. Si vous présentez ces documents, on vous demande l'autre. Si vous présentez ceci, on vous demande l'autre. Finalement, on ne sait pas dans quel sens on va aboutir avec ce contrôle. Nous demandons à l'autorité qui s'implique pour que nous retrouvions notre salaire de 2 mois ainsi que nous continuions avec le salaire que nous recevions chaque mois.
Et on parle culture dans cette édition en marge de la célébration dimanche 27 mars de la 60e édition de la Journée mondiale du théâtre. La ministre congolaise de la culture, des arts et du patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, lance un appel aux partenaires publics et privés pour un business culturel et invite les professionnels du théâtre à revenir aux fondamentaux de ces métiers et surtout travailler pour le réveil du théâtre congolais. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matoki.
Les défis à relever aujourd'hui est de revenir aux fondamentaux du théâtre. Mon ministère lance un appel pressant aux anciennes et nouvelles troupes de se réveiller. Que la Fédération nationale du théâtre, FENAT en sigle, revive ses belles gloires nationales et internationales. Nous devons aussi reconstruire nos salles de théâtre en y apportant une touche moderne. Nous devons récupérer les salles de théâtre de l'État qui ont été spoliées ou donner indûment aux tierces. C'est ici l'occasion de lancer un appel aux partenaires publics privés pour un business culturel. Nous avons aussi de grands acteurs à immortaliser et surtout à primer, car ils sont des ambassadeurs de la culture intellectuelle de notre pays. Le ministère de la Culture, des Arts et des Patrimoines, que je dirige, veut lancer la politique de la résurrection du théâtre. Nous y parviendrons si nous tous parlons un même langage. Le théâtre, c'est une partie de notre identité congolaise, où nous aimons la vie, la joie et la paix.
Actualité internationale.
À l'approche du Ramadan, le 2 avril, en France, les diasporas africaines augmentent traditionnellement les transferts d'argent vers le pays d'origine. Cette année, le mouvement prend une autre ampleur du fait de la hausse des prix des denrées, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. Les transferts de fonds de la diaspora africaine pèsent 85 à 100 milliards de dollars chaque année. De plus en plus, les Africains utilisent les portefeuilles en crypto-monnaie afin d'économiser sur les frais.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, le DG de la Sauteski, le professeur Glombert Loco, nous révèle que son entité est en passe de fermer ses portes si on y prend garde. Sa production est actuellement en baisse et n'arrive pas à couvrir toutes les charges y afférentes. Il s'entretient ici avec Jacques Moukokole. Suivez.
Monsieur le DG de la Sauteski, bonjour. Quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui de votre entreprise?
La Sauteski est en cours de modernisation depuis 2017. Elle a entrepris cette modernisation de son équipement qui est devenu vétuste, investissement. Et les équipements qui ont été mis en place depuis 1974, donc ça fait partie de la technologie des années 70 et 60. Il était très impérieux pour rester compétitif sur le marché, qui est très concurrentiel, de pouvoir moderniser, de suivre la technologie pour rester sur le marché. Donc là, nous avons commencé ces processus, nous avons amorcé depuis 2017, mais ces processus sont mis à mal par certaines décisions, notamment la suspension de l'acte juridique qui nous a permis d'accéder aux mesures incitatives prévues par les partenaires stratégiques sur la chaîne de valeur.
En quoi cela vous a été préjudiciable par rapport à la production?
Notre production avec un équipement qui est devenu obsolète est tombée pratiquement de 1,5 million initial à l'époque où on avait créé l'usine, à 261 000 mètres de production au niveau de tissage, parce que nous sommes dans une structure d'intégration verticale complète. Et en 2020, cette production est tombée à 65 000 mètres. Il était très impérieux pour que nous puissions justement renouveler l'équipement et puis remonter la production. Malheureusement, nous avons amené 10 nouveaux métiers qui pouvaient nous aider à remonter la production vers le niveau diagnostiqué en 2016. Mais lorsque nous avons cherché à déposer la demande de mise en consommation au niveau des douanes, nous avons buté à cette réalité de suspension de l'arrêté d'exonération. Pourtant, ces importations ont été effectuées dans les cadres de ces mesures incitatives qui avaient été convenues entre nous et l'État congolais.
Est-ce que la Sauteski produit aujourd'hui? Quelle année de la capacité?
Nous continuons à produire, nous sommes travailler malgré des problèmes, nous essayons de travailler pour nous maintenir dans l'espace commercial congolais, mais la capacité est fort réduite. Comme je disais tout à l'heure, nous étions à 1,5 million initialement lorsqu'on avait créé l'usine. Cette capacité est restée résiduelle au niveau du tissage parce que nous avons une structure intégrée, nous avons la filature qui était à pratiquement 500 000 mètres. Nous avons le tissage qui était à 261 000 mètres et le finissage tenture en pression qui était pratiquement 900 000 mètres. Mais 4 ans après, la filature est restée au même niveau, mais le tissage est tombé à 65 000 mètres. Alors si on doit produire 65 000 mètres mensuels, donc nous sommes à 780 000 mètres annuels. Donc ça représente 4,3%. de la capacité installée initialement et à pratiquement très peu de pourcentage. Donc on n'est pas rentable, on est en train de travailler en dessous de ce de rentabilité, de sorte que la station ne prend pas en charge tout ce qui est généré pour que nous puissions assurer les fonctionnements.
Vous venez d'acquérir de nouveaux équipements. Quel pourrait en être l'impact au niveau de la production?
Donc si nous mettons en œuvre cet équipement, une fois installé, monté, on transfère la technologie, on forme le personnel. Nous allons remonter cette production qui est toujours à 65 mm à 211 mm. Et comme c'est un processus qui est graduel, nous pourrons arriver jusqu'à 300 mm si on amène encore d'autres machines. Parce que le programme est là, le projet est là. Nous pourrons arriver à 20 métiers, 30 métiers. Et nous pourrons atteindre facilement 500 mm ou même dépasser. Parce que l'objectif est d'atteindre 900 mm.
Monsieur le DG, quelle lecture faites-vous de ce dîner d'affaires organisé par la FEC Tchopo?
J'avais voulu que l'affaire ne soit pas de la Sauteski seule. La Sauteski est implantée dans un ressort territorial qui est la province orientale. C'est donc un patrimoine de la province orientale, pardon, de la province de la Tchopo. Il faut que tout le monde soit au courant parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce qui s'est passé à la Sauteski. Alors, j'ai voulu faire passer le message depuis la source, un message vrai, et que chacun puisse comprendre quelle est la problématique et celui qui a une parcelle de pouvoir qui peut agir, qu'il les fasse pour sauver la Sauteski. C'est un patrimoine de la République, particulièrement un patrimoine de la Tchopo. Et nous avons tous responsabilité vis-à-vis de la postérité et nous devons la protéger pour qu'elle continue à jouer son rôle de développement et continue à produire des richesses et des profits taxables.
Que demandez-vous au gouvernement congolais pour vous aider à relancer la production?
Nous demandons d'abord que l'on puisse respecter les textes qui ont été pris et c'est dans le cadre de ce texte-là que nous avons importé le machine. Et au moment où il y a même une décision du Conseil d'État, une ordonnance en référé des suspensions, que cette ordonnance soit exécutée pour permettre à Sauteski de continuer de poursuivre sa modernisation et de continuer à donner des emplois, sinon dans une brève échéance, elle va disparaître.
Monsieur le DG, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.